avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, scandale suite à la visite d'Omar El-Béchir en Mauritanie. Vague d'attentats-suicides attribués à Boko Haram au Cameroun. Sécurité toujours, en Guinée, le port du voile intégral est questionné. Que retenir de la visite de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie? Blocage dans la mise en application de l'accord de paix au Mali. Enfin, plan de relance économique post-Ebola en Sierra Leone. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Restez avec nous. Bravant de nouveau le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le président soudanais Omar El-Béchir s'est rendu en visite en Mauritanie à l'occasion d'un sommet sur l'initiative de la Grande Muraille Verte, ce grand projet environnemental sahélien qui consiste à planter une barrière végétale de 7600 km pour lutter contre la désertification. Une visite accompagnée d'un communiqué sans aucun rapport avec l'environnement. 11 pays membres de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte ont demandé la levée de l'embargo commercial américain qui pèse contre le Soudan depuis 26 ans. Une demande qui a choqué la société civile africaine et notamment maître Jean-Marie Hélène Lofélé, avocat de la coalition africaine pour la Cour pénale internationale.
C'est la consécration de l'impunité. Cela est inadmissible. Le Sénégal qui est dans cette conférence-là est membre de la Cour pénale internationale et le Sénégal a l'obligation générale de coopérer avec la Cour. Et le Sénégal est le premier État parti africain avoir ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. De deux, même pour les faits qui ont été commis antérieurement à l'instance de la Cour pénale internationale, le Sénégal organise les chambres africaines de Dakar pour juger le président Hissène Habré. Donc, si le président Omar El-Béchir va en Mauritanie, c'est tout simplement parce que la Mauritanie n'a pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. Donc, cela est normal. C'est ce qui fait que, par exemple, pour l'Afrique du Sud, il y avait des problèmes. Omar El-Béchir devait fuir par un aéroport militaire parce qu'il y a eu des pressions à l'intérieur de l'Afrique du Sud. On exigeait que l'Afrique du Sud l'arrête et coopère avec la Cour pour le livrer.
Les pays de l'Agence panafricaine et la Grande Muraille n'ont pas précisé de quelles sanctions il s'agissait. Il peut ne pas s'agir de poursuites de la CPI. Est-ce que vous êtes opposé?
Non, ça, c'est un appel qui consacre l'impunité. Et je vous dis que toute la société civile africaine estime qu'aujourd'hui, l'impunité des chefs d'État n'en a plus de mise. Et tout en respectant les droits de la défense, on ne peut pas consacrer l'impunité pour le président Omar El-Béchir. Le minimum qu'ils demandent peut-être de suspendre sa poursuite jusqu'à ce qu'il termine son mandat. La Mauritanie n'est pas liée parce qu'elle n'a pas ratifié les statuts de la Cour internationale. Mais l'Union africaine lutte contre l'impunité.
Ah, tu parles de l'Union africaine qui lutte contre l'impunité. Son président actuel, le président Robert Mugabe, incite les pays africains à se retirer de la CPI parce que c'est une cour contre les pays africains ou les pays sous-développés.
Bon, ça, c'est son point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'Union africaine. L'Union africaine veut seulement, en créant les chambres africaines de Dakar, qu'il y ait une sorte de complémentarité. Ça veut dire que nous devons être à mesure de créer une juridiction pénale permanente africaine pour que cette juridiction puisse juger les chefs d'État africains ou les autorités africaines au lieu de les envoyer en Europe.
Maître Jean-Marie Hélène Lofélé, avocat de la coalition africaine pour la Cour pénale, il était joint à Kinshasa par Eddy Issango. Direction le Cameroun, dont l'extrême nord du pays a été touché par plusieurs attentats-suicides attribués à Boko Haram ces deux dernières semaines. Alors que l'inquiétude grandit au sein de la population, le pays multiplie les mesures de sécurité. Interdiction du port du voile intégral, renfort des contrôles et des fouilles de véhicules et près de 2000 soldats supplémentaires vont être déployés dans la région de l'extrême nord. Pour faire le point, Timothée Donangmai a joint à Yaoundé le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakary.
Les populations ont été secouées dans leur certitude, dans leur assurance, mais très rapidement, les autorités ont trouvé les mots justes pour encourager les populations, mais surtout rassurer ces populations et les inviter à jouer pleinement leur rôle. Boko Haram redoute la puissance de feu de l'armée camerounaise et c'est pour ça donc qu'ils ont changé de tactique désormais. Les petites filles comme les petits garçons qu'ils prennent en otage ça et là sont endoctrinés pour devenir donc des porteurs d'armes de destruction massive.
Après Fotokol, c'est maintenant Maroua. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger d'une infiltration très importante de Boko Haram au Cameroun?
Nous venons d'être donc interpellés de manière très violente, interpellés pour davantage de prise de conscience d'éveil pour les services de renseignement, bien sûr, et surtout pour nos populations. Ça a commencé par Fotokol et puis Maroua. Évidemment, les esprits sont un peu inquiets et puis en alerte. Sachez simplement que nous ne redoutons rien, nous n'avons peur de rien. Au Cameroun, la défense appartient au peuple. Ce peuple aujourd'hui est interpellé, il faut qu'il joue simplement sa partition. Nous nous préparons donc à faire face à toute éventualité.
Au plan régional, les efforts étaient portés surtout sur le plan militaire. Mais maintenant, comment la région va-t-elle s'organiser face à cette nouvelle tactique de Boko Haram?
Tous les pays de la ligne de front engagés dans ce combat pour éradiquer le mal absolu qu'on appelle Boko Haram, tous les pays de la ligne de front, désormais, ont eu à subir d'une manière ou d'une autre ce genre d'agression, attaque suicide. C'est donc chaque pays qui est en train d'élaborer sa stratégie. Le Cameroun, désormais, victime également de cette agression et en train d'élaborer sa propre stratégie pour faire face, pour conjurer dans ce drame.
Issa Chiroma Bakary, le ministre camerounais de la communication. Suite à cette vague d'attentats, les populations sont appelées à plus de vigilance. Au micro de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, le ministre de la Défense camerounais, Edgar Alain Membe Ngo.
Les populations doivent acquérir une culture de la vigilance. Les temps ont changé. C'est vraiment une action d'ensemble qui doit se mener. Les forces de défense, elles le font déjà efficacement, mais elles ont besoin de la pleine coopération de tous nos compatriotes. Il faut qu'ils soient vigilants, qu'ils s'organisent en groupe d'autodéfense. Et cette sensibilisation doit être menée par tout le monde, les autorités administratives, les opérateurs économiques, les leaders d'opinion à tous les niveaux, les chefs traditionnels, les ministres du culte, les responsables politiques, toutes chapelles confondues. Vous voyez, quand quelqu'un se fait sauter, quand il y a un attentat kamikaze, il n'y a pas de discrimination ou de parti politique ou d'appartenance tribale, encore moins de confession religieuse. C'est un problème qui interpelle tous les Camerounais.
Edgar Alain Membe Ngo, ministre de la Défense du Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Par mesure de sécurité, les autorités camerounaises ont décidé d'étendre l'interdiction du port du voile intégral aux régions de l'Est et du littoral. En Guinée aussi, le port de la burqa est en discussion. Le président Alpha Condé a proposé un débat sur le port du voile intégral qu'il estime être un problème. Le président Condé a rencontré le week-end dernier des étudiants à Conakry pour un échange sur ce thème. Il a laissé entendre que des cellules terroristes dormantes existaient en Guinée. Reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le port du voile intégral pose un problème en Guinée, a alerté le président Alpha Condé à l'université générale Lansana Kanté de Sonfonia. Je demande un débat national sur la question pour savoir s'il faut ou pas interdire cette façon de s'habiller, s'est-il expliqué devant les étudiants de la capitale.
Quand une femme a seulement son visage, qui peut savoir que c'est une femme? On ne peut pas savoir. Deuxièmement, il ne peut pas venir calachikov.
et venir s'y tirer sur les gens. Donc j'ai dit, il faut qu'on réfléchisse à la question. Moi, je suis président d'un État laïque, c'est-à-dire je projette toutes les religions. Je dois assurer la sécurité de la Guinée.
Assurer la sécurité des Guinéens, surtout face à des menaces, dont le président Condé a su trouver le nom pour mieux se faire comprendre.
Aujourd'hui, tous nos pays sont menacés. Il y a une semaine, les Français m'ont appelé pour me dire, attention, on va vous attaquer à Mandiana. Donc j'ai été obligé d'envoyer l'armée et la gendarmerie aujourd'hui à la Mandiana et à d'appeler le Mali. Donc on va s'asseoir, qu'on ait ce qu'on appelle les cellules dormantes, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui sont avec eux, mais qui n'aident pas pour le moment, qui à tout moment peuvent être réveillés.
Première rencontre avec les étudiants, le président Condé a accepté d'aborder des questions liées à l'élection présidentielle. Alpha Condé a dit qu'il est temps de respecter la loi.
Mais les élections législatives sont finies. La Guinée est maintenant un état normal. On n'est pas en transition. Il y a un gouvernement, il y a un parlement. Maintenant, on respecte la loi. Si tu ne veux pas respecter la loi, c'est leur problème. Ceux qui font qu'il n'y a plus de confrontation, il n'y aura pas de confrontation en Guinée. Quand on demande un, quand on donne, il demande cinq. Parce qu'on a accepté ça sous les législatives. Mais maintenant, c'est tombé.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Fin du déplacement du président américain en Afrique de l'Est. Barack Obama fut le premier président en exercice à visiter le Kenya et l'Éthiopie. Que faut-il retenir de sa visite ? Comment les discours et interventions de Barack Obama ont-ils été perçus ? Élément de réponse avec le journaliste et analyste politique africain, Dame Babou.
On se rend compte que la liberté de ton que le président Obama exerce en Amérique en tant que président à la fin de son mandat, c'est la même liberté de ton qu'il utilise en Afrique. Il y a certaines vérités, il n'y a que lui qui ose les dire sans grande conséquence.
À quelles sont ces vérités-là ?
Par exemple, vous avez entendu le président Barack Obama dire aux Africains, quels que soient les efforts que vous déployez pour développer le continent, tant qu'il y aura cette corruption à grande échelle, rien ne se passera. Le président Obama s'est permis même de donner l'exemple de Chicago pour dire que c'était une ville extrêmement corrompue. C'est important ça de le dire pour dire aux Africains qu'on ne vous montre pas du doigt comme ça parce que d'autres sont passés là. Et il y a aussi le fait que le président Barack Obama puisse dire qu'il n'exerce pas de la violence sur vos femmes et que le viol ou certaines violations de droits ne sont pas admissibles. Si c'était un autre président, ce serait totalement différent du point de vue de l'accueil.
Pour parler du Kenya, vous savez, et j'ai l'habitude de le dire, le président Obama est le premier lourd à être élu président dans le monde, et c'est en Amérique.
Exactement, et lui-même, il s'est permis de dire que je suis le premier Kenyan-américain a été élu président des États-Unis pour prendre justement le prétexte de ça, pour dire qu'il n'y a qu'une seule tribu qui vaille sur Terre, c'est les hommes entièrement, les hommes dans le monde entier. Il ne peut pas avoir de différence. Je pense que sa position de noir président américain, donc la première puissance mondiale, mais d'origine africaine, mais effectivement, comme vous dites, faisant partie d'une ethnie qui n'a jamais été élue nulle part dans le monde, il n'y avait que lui qui pouvait bénéficier de tant de circonstances favorables pour pouvoir dire la vérité, nous dire la vérité, nous, Africains.
Alors, il y a la lutte contre Al-Shabaab, mais il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance et de démocratie. Et je crois qu'il n'a pas escamoté le débat, en quelque sorte, en Éthiopie.
Non, au contraire, je pense qu'il est parti justement pour dire ces vérités, que tant que nos pays ont des problèmes de bonne gouvernance à ce point, ils seront toujours des pays faibles économiquement, donc ils resteront le ventre mou du terrorisme, parce que le terrorisme n'a pas de nationalité, n'a pas de territoire, à la différence de la guerre froide. Cette fois-ci, le terrorisme ne cherche que des États partout dans le monde qui sont faibles, fragiles, qui n'ont pas les moyens de contrôler le territoire. Et je pense que c'est ce message-là que le président Obama est allé délivrer aux Africains.
Dame Babou, journaliste et analyste politique africain, il était joint à New York par Idrissa Sedoudia. Direction le Mali à présent pour évoquer les blocages dans la mise en application de l'accord pour la paix. Les travaux du comité de suivi ont été suspendus, comité dont la composition pose également problème. Au même moment, le ministre de l'administration territoriale a fixé les élections communales et régionales au 25 octobre prochain. Certains partis politiques ne sont pas d'accord avec cette date. Pour y voir plus clair, les explications de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La troisième session des travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a permis l'adoption du règlement intérieur de ce comité. La convergence tant souhaitée pour la représentativité des membres de ce comité n'a pas été possible, d'où le blocage et la suspension des travaux. Nourdine Ayadi, ambassadeur de l'Algérie au Mali, chef de la médiation.
Nous sommes très proches d'un accord sur cette question, mais nous n'avons pas encore un accord total. Des consultations se poursuivront et nous avons bon espoir que nous parviendrons à un accord définitif sur cette question.
Le ministère de l'administration territoriale annonce dans la même foulée la tenue des élections couplées, municipales et régionales pour le 25 octobre prochain. Les responsables des partis politiques ont des avis divers.
Que toutes les dispositions soient prises pour que la date, si elle devait être maintenue, conditions soient réunies. Du côté technique, le ministre nous a donné quelques assurances, mais il n'est pas le seul parce qu'il y a d'autres secteurs qui interviennent.
Pour nous, il y a des préalables. Il faut d'abord accomplir avant d'aller aux élections. Mais telle n'est pas la vision du ministre. Aujourd'hui, aller aux élections comme telle, cela suppose premièrement ne pas respecter l'accord. Deuxièmement, la révision qui est prévue. Il y a des cercles qui ne pourront pas participer aux élections.
En tout cas, les officiers supérieurs de l'armée malienne ont présenté au chef du gouvernement malien le plan stratégique de démobilisation, désarmement et réintégration appelé DDR. Choguel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
C'est un document au stade de projet qui doit faire forcément l'objet de discussions avec l'ensemble de nos partenaires pour être discuté et servi de base pour que les DDR se fassent dans la plus grande sérénité parce que c'est un élément essentiel de la stabilisation du pays.
Pour le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad FPA, les Maliens doivent se mettre à la construction d'une paix définitive. Hassan Agmeidi dit Jimmy l'ex-rebelle.
Ce qui va nous amener la paix est que chacun se mette dans la tête que c'est une paix des Maliens et que chacun se retrouve là-dedans et que chacun se sente concerné. Et je sais que je suis fatigué d'être embarqué et d'être trimballé dans du faux. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est d'être dans quelque chose de concret. Même si ça nous prend 10 ans, l'essentiel est qu'on se retrouve dans une paix définitive.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Rubrique santé, en Sierra Leone, le président Ernest Koroma a annoncé un plan de relance post-Ebola pour redresser l'économie, mais aussi les secteurs de la santé et de l'éducation. Selon les autorités sanitaires, le pays ne compte plus que 3 malades d'Ebola. Plus de détails avec Henri Francisque.
Le plan de relance du président sierra-léonais fait suite aux promesses de financement recueillies le 10 juillet dernier lors d'une conférence internationale des Nations Unies consacrée à la lutte contre l'Ebola. Plus de 804 millions de dollars ont été promis pour la Sierra Leone, permettant la mise en place de ce plan de bataille pour vaincre Ebola, comme l'a intitulé le président Koroma. Peu de détails sur le déroulement de ce plan, mais le président s'est donné 9 mois pour redresser le pays et 2 ans pour retrouver le chemin de la croissance. Selon le communiqué de la présidence, le secteur privé doit être revigoré, le réseau routier transformé et l'accès au marché amélioré. L'accès à l'eau et à l'énergie sera parmi les priorités. La Sierra Leone devrait également bénéficier d'une partie de l'enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard de dollars, promise également à New York pour une relance régionale.
Magic System encore ici, avec quoi de Pelé? Mais, y'a quoi les gars?
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Yemi Obadjimi. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Magic System et leur Kidimié. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
1, 2, 3 et c'est reparti pour l'ambiance. On est bien et tous, c'est nous les rois de la danse. C'est pour mettre le feu dans le monde entier. Yeah.